Je pense que tous les chrétiens seront unanimes. Tous les chrétiens seront unanimes pour dire leur joie, leur reconnaissance, leur paix, de désormais avoir Dieu pour Père, d'être réconciliés avec lui, d'être à nouveau en relation et communion avec lui, et d'expérimenter sa grâce et sa fidélité dans leur vie, d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Cette dimension verticale de nos vies entre Dieu et chacun d'entre nous, si du moins nous avons reconnu et accepté par la foi Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, est certainement essentielle, indispensable, et c'est désormais la base de toute chose dans nos vies. Éphésiens, et je lirai plusieurs versets dans l'Épître aux Éphésiens ce matin, au chapitre 1, verset 5 nous dit « Dieu le Père nous a destinés d'avance à être pour lui des enfants, donc des fils et des filles, adoptifs par l'union à Jésus-Christ. Tel est son plaisir et sa volonté. » Fils et filles adoptives de Dieu par l'union à Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable cela ? N'est-ce pas formidable cela ?
Oui. Quand même.
C'est la volonté de Dieu en tout cas, nous rappelle ce verset. Et nous ne réalisons peut-être pas encore pleinement tout ce que cela veut dire, tout ce que cela implique. Mais si nous méditons un peu là-dessus, certainement, nous ne pourrons qu'être émerveillés. Et alors avoir envie de remercier Dieu, le louer, l'adorer. Certains penseront peut-être tout de suite qu'ils ne sont pas dignes. C'est vrai. Mais Dieu ne nous a pas adoptés parce que nous en étions dignes. Il l'a fait par grâce et par amour. Ne restons donc pas coincés dans ce « je ne suis pas digne ». Au contraire, saisissons, emparons-nous des promesses qui vont avec l'offre de Dieu. Nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés et nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Waouh ! Je ne me lasse pas de le considérer et de m'en réjouir au travers du sang de Christ. Lui qui a subi la condamnation à notre place pour nos péchés, nous faisons désormais partie de la famille de Dieu. Nous sommes désormais la famille de Dieu. Famille de Dieu. C'est peut-être là que le bât blesse. Là, malheureusement, tous les chrétiens ne seront pas unanimes. Tous les chrétiens ne seront pas unanimes pour dire leur joie, leur reconnaissance et leur paix. On ne choisit pas sa famille, dit une expression. Et désormais avoir certains des autres chrétiens pour frères et pour sœurs, des fois ça peut coincer. C'est un peu grincé. Non, je dis une bêtise en disant cela, je choque. Sans même parler des schismes à travers l'histoire de l'Église, des divisions, des querelles de doctrine, des querelles de clochers comme on dit. C'est vrai que parfois, on a du mal avec cette dimension horizontale du projet de Dieu pour nos vies. On a du mal avec certains, on ne mettra pas de nom, je ne donnerai pas de nom en tout cas. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 19, rajoute « Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Nous faisons partie de la famille de Dieu, et Dieu veut aussi cette dimension horizontale dans nos vies. Et ça s'appelle l'Église. C'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu. L'image de l'Église comme famille de frères et sœurs est de fait l'image la plus fréquente dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. On ne parle pas alors de relations avec tout le monde, on parle de nos relations privilégiées avec chacun de nos frères, chacune de nos sœurs. Et pas seulement celles ou ceux à Tokyo, à Damas, à Ouagadougou, à Rio de Janeiro, que j'aime bien sûr, que je dois aimer, pour lesquels je dois prier, mais qui sont suffisamment loin pour qu'ils ne me marchent pas sur les pieds, et pour que je ne leur marche pas sur les pieds non plus. Oui, nous faisons partie de la grande famille de Dieu, l'Église universelle, et gloire à Dieu, c'est une super grande famille et qui s'agrandit encore. Mais on parle aussi du fait que je fais aussi partie de cette petite église locale. Et l'église locale, c'est aussi et surtout le projet et le plan de Dieu pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous. La partie la plus exaltante, bon, reconnaissons-le aussi parfois la plus frustrante, malheureusement, et la plus difficile, car sujette des fois à de grandes, en tout cas des grands risques, sinon des frictions réelles, des frottements, pas toujours faciles, une école de vie entre nous. Cette église locale se construit-elle bien? Est-elle bien coordonnée? Chacune des personnes la composant est-elle bien unie au Christ? Est-elle bien intégrée à la construction? Chaque personne cherche-t-elle à bien s'intégrer? Ce sont des questions que ces versets d'Éphésiens nous amènent à nous poser. La faute au pasteur si des réponses ou quelques-unes des réponses sont négatives. Non? Bon, moi je suis tout nouveau dans le costume, donc je ne me sens pas concerné, évidemment. Pas concerné. Si, justement, nous sommes assurément tous concernés. Nous tous, l'Église, c'est chacun et chacune d'entre nous. La lamentation du pasteur, et la lamentation de tous les pasteurs, mais pas que du pasteur, vous êtes nombreux aussi à le penser, c'est que tellement de chrétiens, malheureusement, n'entrent plus dans ce projet de Dieu qu'est l'Église locale, ou papillonnent quelque peu, ne veulent pas ou plus y entrer, ne se sentent pas concernés, n'en voient pas la nécessité. Merci Seigneur, mais ce projet-là ne m'intéresse pas. Merci, mais non, débrouillez-vous sans moi. Moi, l'Église universelle, oui, mais l'Église locale ne me plaît pas assez. Elle est trop imparfaite à mon goût, ne répond pas à mes attentes. Peut-être ont-ils un peu raison dans cette évaluation. En tout cas, ils n'en voient pas le bénéfice, pour eux, un peu égoïstement peut-être, ou même pour les autres, en considérant qu'ils ont trop peu à apporter peut-être. Ou peut-être ils sortent de ce projet de Dieu suite à des blessures, des conflits, des déceptions. Quel dommage, au singulier, quel dommage aussi, au pluriel, dans tous les sens du terme. Quand j'ai écrit ce message, j'ai dit « Oulala, dans quoi je m'embarque avec ce message, moi ?» Oui, l'Église locale. Le défi est grand, énorme, et l'homme a souvent failli, c'est vrai. Il y a tellement de tristes exemples de conflits, de séparations, de choses dans les églises. Mais le projet est beau pourtant, puisque c'est le projet de Dieu. Comment nous y inscrivons-nous? Comment y participons-nous? Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, mais est-ce de près ou est-ce de loin? Est-ce avec reconnaissance ou seulement subi comme un fardeau? Et comment faire pour que l'Église, notre Église, soit toujours plus une communauté parfaite, à vivre, accueillante, qui donne envie aux gens de l'extérieur d'y prendre part et de découvrir combien Dieu est merveilleux? Il peut avoir un tourbillon de questions quand on pense à l'Église. On ne choisit pas sa famille. J'ai déjà mentionné cette expression tout à l'heure, c'est vrai. Et on le regrette parfois, c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Mais pour ce qui concerne notre famille spirituelle, se focaliser sur ce dicton serait oublier qui est le père de famille, qui a choisi cette famille. Ce serait oublier qui a créé et choisi chacune des personnes qui la composent. Même vous, et même moi. C'est vrai que si je me rappelle cela, si je me rappelle que c'est Dieu qui aime parfaitement chaque personne de sa famille, tous les autres membres et moi aussi, alors j'ai peut-être moins envie de me plaindre. Enfin, j'espère. Le point de départ pour un bon départ dans l'Église, c'est d'abord d'être sûr de son identité personnelle en Dieu. Sûr de son identité de fils et de fille de Dieu. Évidemment, tout n'est pas instantané, encore que Dieu peut bien nous surprendre. Mais quand on connaît Dieu de façon intime et profonde, comme un père, et qu'on connaît son amour, alors je pense que beaucoup de risques et de travers dans nos relations et implications dans l'Église notamment, disparaissent. L'orgueil, la recherche de puissance, la recherche de reconnaissance, le jugement, la jalousie, etc., etc. Si nous regardons à Dieu, si nous le connaissons intimement, on ne se bat plus pour ces choses-là. Tu peux montrer la première diapo, Pedro ? Nous sommes restaurés en Jésus-Christ en tant qu'image de Dieu. On se souvient tous que c'est la vocation de tout être humain que Dieu avait donnée et que l'on peut lire dans le récit de la Genèse. Quand nous sommes restaurés en image de Dieu, alors nous pouvons réellement connaître Dieu et être connus de lui dans une vraie relation avec lui. Cela nous donne une participation intime dans l'esprit à la communion entre le Père et le Fils. Et ça, ce n'est pas rien. Une participation intime dans l'esprit à la communion entre le Père et le Fils. Dieu partage son amour qu'il vivait de manière parfaite et qu'il vit encore de manière parfaite dans la Trinité. Il la partage avec nous. Est-ce qu'on réalise la grandeur et le côté merveilleux de cela ? Et en outre, comme fils et filles du Père, dans l'union à Jésus, nous pouvons aussi, par la présence et l'action du Saint-Esprit en nous, refléter son caractère, ressembler à Dieu dans toutes nos relations, dans toutes les dimensions de nos vies, ressembler à Dieu. Est-ce qu'on est conscient de ça maintenant que l'on commence et qu'on le ressemble déjà à Dieu ? Ouais, non, pas lui quand même, mais pas trop non plus. Nous ressemblons à Dieu, et Dieu veut nous faire toujours ressembler davantage à lui, dans toutes nos relations, que ce soit dans nos relations avec lui-même, avec Dieu, dans notre relation avec nous-mêmes, dans nos relations avec les autres ou avec la création. C'est notre nouvelle identité, ressembler à Dieu. Est-ce que c'est ça qui nous motive chaque jour de se dire « Waouh, aujourd'hui j'ai envie de ressembler encore plus à Dieu qu'hier. » Pas toujours facile, mais ça devrait être notre motivation. Enfin, et en conséquence, dans toute notre vie, nous pouvons alors représenter Dieu. Représenter Dieu. Ambassadeur de Dieu, disait l'apôtre Paul encore par ailleurs. Nous pouvons manifester le royaume de Dieu dans toute notre réalité. À la maison, au travail, dans le quartier, etc. Et ainsi faire connaître Dieu. Pas un père lointain, austère, intransigeant, un père aimant, un père que l'on connaît en tant que papa. Jésus disait « Abba, père ». Abba en araméen, ce mot qui veut dire « papa ». Et c'est aussi le privilège que nous avons, avec tout l'honneur, la crainte et le respect que l'on doit à Dieu, évidemment. On peut aussi l'appeler « papa ». Il veut une relation intime avec nous. Et nous pouvons non seulement le dire, mais vraiment le vivre quand on le connaît ainsi. Programme ambitieux, n'est-ce pas ? Mais c'est le programme de Dieu. Et nous devons et nous pouvons nous l'approprier. Ce n'est pas juste une réalité pour plus tard, c'est pour maintenant. Le voulons-nous ? Connaître Dieu ? Ressembler à Dieu ? Représenter Dieu ? Ayons bien en tête cela en considérant l'Église et notre place dans l'Église. Parce quel est le détail du programme de Dieu pour l'Église, justement? Dans le Nouveau Testament, les églises, qui sont presque toujours des églises de maison à l'époque encore, se construisent à l'image d'une famille. Et les relations en cette famille sont présentées dans de nombreux versets de la Bible avec cette expression « les uns les autres ». Vous en avez sûrement en tête. Nous le mettons déjà en pratique dans notre Église, plus ou moins bien des fois, mais il ne s'agit en aucun cas de critiquer, évidemment, mais plutôt d'encourager, d'exhorter à l'excellence. L'apôtre Paul, dans ce qu'il nous invite à vivre, ce n'est pas une petite vie monotone, standard. Il veut vraiment une vie qui a du relief. Dieu veut que l'on ait une vie qui ait du relief, une vie d'excellence. Et nous amener à l'excellence, c'est bien ça, de chercher à ressembler toujours davantage à Jésus. C'est bien de rechercher l'excellence dans nos vies. C'est le programme du Seigneur. Et merci déjà pour qui vous êtes et pour tout ce que vous faites dans le Seigneur. Il y a aussi des versets qui appellent à la vigilance, à ne pas s'enorgueillir, à ne pas s'endormir sur nos lauriers. C'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Beaucoup de versets, et puis je me suis demandé donc quelle est la meilleure façon de les aborder, parce que si on les lit tous, ça peut être long. Encore que ça serait enrichissant. Donc je les ai envoyés par email à ceux dont j'avais les coordonnées. J'en ai imprimé un certain nombre que vous avez sur les chaises. Beaucoup de versets regroupés en deux familles. D'un côté de la page, 8 attitudes ou comportements à éviter courageusement avec l'aide de l'Esprit qui fait le ménage en nous, si on le veut bien. Et de l'autre côté, 22 attitudes et comportements à vouloir et à développer dans la communauté. 22 contre 8, on devrait avoir plus de facilité à choisir de faire le bien, il y a le plus de choix. Et je vais juste en lire quelques-uns. Les lire attentivement, les lire dans un esprit de prière aussi envers Dieu, pour demander son action transformatrice en nous. Les lire dans un esprit d'amour envers les uns et les autres, pour développer une réelle envie de vivre selon cet idéal divin. De loin, on pourrait dire que c'est une utopie, mais non, c'est un idéal que Dieu veut que l'on vive et qui ne reste pas à l'état d'idéal, mais à vraiment une réalité dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église. Dieu nous appelle à déjà vivre sur terre le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a présenté dans les évangiles. Pas pour dire, si vous êtes sage, peut-être un jour vous accéderez à ce royaume de Dieu. Non. Dès aujourd'hui, saisissez, vivez ce royaume de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Le voulons-nous? Croyons-nous cela possible dans nos vies? Croyons-nous cela possible dans l'Église? Moi, j'ai encore un peu de progrès à faire, mais j'ai envie de vivre selon ce modèle que Christ a donné. J'ai envie de vivre selon ce modèle parfait de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit et avec la vôtre. Et vous? La liste est longue, mais ça montre aussi combien le sujet de l'Église, de la famille de Dieu, des relations fraternelles est quelque chose d'essentiel et qui tient vraiment à cœur à Dieu, à notre Père Céleste. C'est pas pour rien que tout ça est dans la Bible. À l'Institut Emmaüs, où je fais les études, en parcourant ces versets, on nous a dit, lisez-les et puis essayez de voir les trois points faibles que vous avez dans le domaine. Et les trois points forts aussi. Ça peut nous aider à nous approprier ces versets. Quels sont les trois points sur lesquels je dois vraiment demander l'aide de Dieu? Quels sont les trois points où je peux le remercier et me fortifier? Quelque chose à éviter, on le sait, mais c'est bon de le rappeler. Se blesser ou se déchirer, littéralement dévorer les uns les autres. Se provoquer et se jalouser les uns les autres. Se détester les uns les autres. Se juger les uns les autres. se mentir les uns les autres, calomnier ou dire du mal les uns sur les autres, se plaindre les uns des autres, aller au tribunal même les uns contre les autres. Facile, nous n'avons aucun de ces travers. Ouf. Ah, merci Seigneur. Bon, peut-être un peu de temps en temps. Allez. Aide-nous Seigneur à être vigilants par rapport à ça. Aide-nous à changer si besoin est. Beaucoup de choses à développer, par contre, de précieuses choses. Et comme je le disais déjà, on en vit déjà, on le vit déjà. Mais on peut certainement toujours s'améliorer. S'encourager les uns les autres. Encouragez-vous donc mutuellement. Se construire les uns les autres. D'autres traductions auront « édifiez-vous » ou « aidez-vous mutuellement à grandir ». S'aider mutuellement à grandir. C'est bien l'objectif de nos rencontres d'église, de nos rencontres d'études bibliques, de nos rencontres de maison, des réunions de prière, s'aider à grandir les uns les autres, être vigilant par rapport aux besoins des uns et des autres, s'avertir et se conseiller les uns les autres. Là, on a certainement besoin de beaucoup de douceur quand on veut avertir quelqu'un d'autre. On pense que quelque chose ne va pas chez l'autre, comment aller lui dire ? Pas facile, hein. Là on a vraiment besoin de douceur, de bienveillance, de maîtrise de soi, de paix, d'amour. S'instruire les uns les autres, se supporter les uns les autres. Moi, au début je pensais que c'était « Ah, je vais être un support sur l'autre, par rapport à l'autre », c'était ça le sens initial du verset, mais non. Le sens du verset c'est plutôt « Celui-là j'ai du mal à le supporter, et Dieu m'encourage à le supporter ». Soyez toujours humbles, aimables, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour, même les plus insupportables. Se pardonner les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ça rejoint vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, la base, le fondement, la source, la force que l'on aura pour faire cela, sera notre bonne compréhension de qui nous sommes en Jésus-Christ. Notre nouvelle identité de fils et de fille de Dieu, nous sommes pardonnés. Et si nous mesurons toute la portée et la grandeur de ce pardon que Dieu nous a donné, alors nous arriverons à relativiser le mal qui a pu nous être fait et nous serons mieux pardonnés avec la force que Dieu nous donne les uns les autres. Être bons les uns envers les autres, avoir de l'affection les uns pour les autres. S'honorer les uns les autres. Faites passer les autres avant vous. Romains 12, verset 10. Ça, c'est plus facile pour certains que d'autres. Certains arrivent très bien à s'effacer, d'autres aiment mieux être sous la lumière des projecteurs. Faisons passer les autres avant nous. Vivre en harmonie les uns avec les autres. Avoir de la douceur les uns pour les autres. Être patient, ça c'est le plus facile ça, être patient les uns avec les autres. Un auteur dans un livre qui s'intitule « La communauté, lieu du pardon et de la fête » écrivait, et c'est à méditer aussi, « La qualité essentielle pour vivre en communauté est la patience. Reconnaître que soi-même, les autres et la communauté tout entière ont besoin de temps. » Pour grandir. Rien ne se fait en un seul jour. À part Dieu qui arrive à créer quelque chose, un petit univers en juste quelques jours. Rien ne se fait en un seul jour. Ayons la même patience envers les autres que la patience que Dieu a envers nous. S'accueillir les uns les autres. Et là, dans ce même livre, l'auteur disait « Accueillir, c'est dire aux gens à chaque instant, entre, c'est leur donner de l'espace. » C'est les écouter avec attention, c'est voir en eux un don, c'est les accueillir et les regarder avec amour. Accueillir est un véritable signe de maturité humaine et chrétienne. Ce n'est pas seulement ouvrir sa porte et sa maison à quelqu'un, c'est lui donner de l'espace dans son cœur pour qu'il puisse exister et grandir. Un espace où il se sait accepté comme il est, avec ses blessures et ses dons. Et cela suppose qu'il existe dans notre cœur un lieu silencieux et paisible. Et ça, on ne peut l'avoir vraiment que si Dieu nous a pris sa place dans notre cœur. Cela suppose qu'il existe dans notre cœur un lieu silencieux et paisible où les autres peuvent trouver le repos. Si le cœur n'est pas paisible, il ne peut pas accueillir. Se soumettre les uns aux autres, se revêtir d'humilité les uns à l'égard des autres, vivre en paix les uns avec les autres, confesser nos péchés les uns avec les autres. Quand le prof a demandé aux étudiants, vous avez choisi quoi dans les trois qui vous sont le plus difficiles ? Quasiment toute la classe avait mis ça. Confesser nos péchés les uns aux autres. Je ne pense pas qu'on ait à prendre le micro de la chair et venir dire à tout le monde, voilà, il y a ça, il y a ci. Mais construisons des amitiés fraternelles solides avec une, deux personnes de l'Église, d'autres chrétiens qui peuvent être ailleurs que dans cette Église aussi. Et prions ensemble. Portons les fardeaux des uns des autres. Et certainement, ça nous aidera à grandir, à remettre tout cela au Seigneur. Priez les uns pour les autres, justement. Offrir l'hospitalité les uns pour les autres. Se saluer les uns les autres. Porter les fardeaux les uns des autres. Être en communion les uns avec les autres. On peut être assommé par cette longue énumération. Dieu connaît le cœur humain et son fort potentiel à l'égarement. Il a sûrement jugé nécessaire d'en mettre une telle tartine. Certains ont peut-être perçu dans toute cette liste une litanie de commandements. Bizarre, moi je croyais que la vie chrétienne c'était justement tout sauf une série de commandements et d'interdictions, d'obligations. Il y a effectivement des interdictions et des obligations dans la vie, y compris dans la vie chrétienne. Et c'est pour notre bien et notre sécurité. Mais si on ne comprend cette liste que comme cela, c'est que je pense qu'on n'a pas pleinement saisi le point de départ essentiel que l'on a rappelé tout à l'heure. Notre nouvelle identité de fils et de fille de Dieu n'est pas encore pleinement saisi la nature et l'identité de notre nouveau Père, Dieu. La famille de Dieu ne se construit pas à force d'abnégation, de privation, d'efforts. Il peut y en avoir par moment, évidemment. Mais la famille de Dieu se construit d'abord parce que Dieu lui-même l'a construit. Selon le caractère du père de famille, c'est-à-dire selon son caractère à lui. Et Dieu, évidemment, on l'a rappelé tout à l'heure aussi, n'est pas le père fouettard ou un rabat-joie, comme malheureusement beaucoup de nos contemporains le pensent, en partie à cause du mauvais témoignage de l'Église au fil des siècles. Mais n'oublions pas, en effet, comme nous l'avons déjà vu, qu'avant de changer notre faire, Dieu change d'abord notre être, et ayant changé d'être, alors nous sommes à même de changer de faire. Et Dieu seul le rend possible. Et si l'Église, au sens large, a souvent échoué en la matière, c'est souvent qu'elle ne connaissait pas personnellement Dieu, et qu'elle était devenue une entreprise humaine où chacun s'efforce de faire son œuvre, plutôt qu'une entreprise divine où on laisse Dieu faire son œuvre en nous. Et la différence est majeure. Laissons Dieu faire son œuvre en nous. Ça ne veut pas dire être passif, au contraire. C'est déjà un grand boulot que de lui donner les clés de chaque pièce de notre vie, les rênes de notre vie, avoir envie qu'il enlève tout obstacle, prier pour cela, vouloir grandir dans la connaissance de qui il est, vouloir lui ressembler davantage jour après jour. On sera déjà bien affairé à vouloir s'y appliquer pour arriver à l'exemple parfait de Christ. Connaître Dieu, ressembler à Dieu, représenter Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons les efforts, nous laissons Dieu faire son œuvre. Encore un verset d'Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant lui-même en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Rien n'est impossible à Dieu, comme dit un verset, mais encore faut-il nous appuyer sur lui et sur lui seul. Et alors je pense qu'il donnera réellement envie à d'autres, en voyant le résultat, de découvrir qui est ce Dieu merveilleux qui change les vies, qui fait la grâce de nous sauver et de nous changer. C'est ma prière en tout cas. Merci Père Céleste de rendre cela possible, vivre le royaume de Dieu sur terre. Petite partie de la terre en tout cas pour le moment, mais c'est tout de même extraordinaire. Mais ça ne se vit pas tout seul. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans famille de Dieu dans toute l'Écriture. Notre identité de fils et de filles de Dieu ne se construit pas seule et ne se vit pas en solitude, mais en communauté de frères et de sœurs. Seigneur, merci de m'avoir ajouté à ta famille. J'en suis honoré et j'en suis reconnaissant. Bénis ma famille, je te prie. Bénis chaque membre de ma famille, chaque frère et sœur. Fais-les grandir. Fais-moi grandir. Et fais grandir notre famille, ta famille, pour ta seule gloire. Amen. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, quel privilège d'être membre de ta famille, fils et fille de Dieu. Aide-nous à renforcer cette relation, cette communion avec toi, en te laissant faire, en te laissant la fortifier, la renouveler, l'encourager, l'approfondir. Aide-nous aussi à la vivre dans cette dimension horizontale que tu veux, selon ton projet dans l'Église. Merci déjà pour notre Église autonome, pour toutes les choses merveilleuses qui s'y font, pour tous les gens merveilleux qui la composent, et que tu nous aides à mettre en pratique toujours davantage pour exceller dans toutes ces attitudes et comportements qui t'honoreront, qui feront du bien aux autres, qui nous feront du bien et qui attireront encore d'autres personnes à toi. Merci pour le privilège et la grâce de te connaître, de te ressembler et d'être ton ambassadeur. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Pas à nous, mais vraiment à toi et à toi seul. En Jésus. Amen.